France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Tommaso Buscetta, le traître de Cosa Nostra, le premier repenti de la mafia sicilienne, même s'il refusera toujours cette étiquette. Quoi qu'il en soit, en brisant l'omerta, il va mettre à genoux l'organisation criminelle. Il se trouve qu'au tournant des années 80, une guerre intestine éclate à Palerme pour le contrôle de Cosa Nostra et du trafic de stupéfiants. Les Corleonessi, de Corleone donc, et aux ordres du terrible Totorina, déciment les familles mafieuses palermitaines. Parmi les innombrables victimes, deux des fils de Buscetta, pourtant sans lien avec la mafia. Et puis le destin va mettre sur sa route un jeune juge d'instruction intègre et déterminé, Giovanni Falcone, authentique héros italien, tout comme son collègue le juge Borsellino, à tel point que l'aéroport de Palerme porte leur nom. En lui révélant les secrets de Cosa Nostra, dont Lida ignore jusqu'au nom, Buscetta assouvit une vengeance personnelle et contribue à démanteler la mafia la plus puissante du monde à l'époque. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Besson, procureur de la République à Marseille. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Rambert, rédaction chez Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
La police brésilienne a confirmé que le célèbre malfaiteur Tommaso Buscetta a été extradé vers l'Italie où il est accusé de trafic de drogue.
3 décembre 1972 à l'aube, aéroport Rome-Fiumicino. Un homme menotté descend d'un avion en provenance de Rio, encadré par deux policiers. Trapu, cheveux sombres, blouson en cuir, air impassible. Au pied de la passerelle, il est embarqué par la police judiciaire italienne. Il s'agit d'un certain Tommaso Buscetta, 44 ans, retour au pays. Mais Rome n'est qu'une étape. Direction la prison de Palerme, en Sicile. Buscetta reçoit un accueil digne de son rang. Recherché par l'Italie et les États-Unis pour trafic de stupéfiants, il a été arrêté au Brésil un mois auparavant. Jusqu'au dernier moment, la date de son extradition a été tenue secrète, de crainte que des complices n'organisent sa fuite. À son arrivée en Italie, il n'a qu'une petite valise, avec à l'intérieur, en tout et pour tout, un smoking. C'est du moins ce qu'écrivent les journaux. Ces mêmes journaux qui lui ont trouvé un surnom qui ne le quittera plus, le boss des deux mondes. Parce que Buscetta a un pied dans le crime organisé américain, aux États-Unis, comme au Brésil, et l'autre dans la mafia sicilienne. Le milieu palermitain lui l'appelle Don Massino, ou face d'Indien, en raison de ses traits anguleux et de son teint mat qui évoque un physique d'Amérindien. Tommaso Buscetta, né en 1928 dans un quartier pauvre de Palerme. Fils d'un artisan vétrier, il est le plus jeune d'une famille de 17 enfants. Il rejoint Cosa Nostra, la mafia sicilienne, quand il n'est encore qu'un adolescent, fasciné par un milieu qu'il trouve alors, et je le cite, « splendide et envoûtant ». À 17 ans, il jure fidélité à l'organisation mafieuse. Et selon le rituel, il reçoit la pinchuta. On lui pique le doigt pour en faire couler le sang. Il devient ainsi un homme d'honneur. Oui, parce que cette engeance, qui piétine les principes de base de la civilisation, se revendique homme d'honneur. Mais très vite, la vision romantique de la mafia s'effrite aux yeux de Buscetta. Il l'explique en 1986, lors d'une interview télévisée passée à la postérité.
À dire la vérité, je n'ai jamais cru en Cosa Nostra. Vous n'y avez pas cru, mais vous y êtes entré. J'y suis entré, j'y ai vécu.
Vous l'avez très bien connu.
Je l'ai très bien connu.
Mais alors, la mafia, c'est quoi ?
La mafia est quelque chose qui devait constituer une arme contre l'oppression de l'État lorsqu'elle a été créée. Avec le temps, les choses ont changé. Il n'était plus nécessaire de lutter contre l'État. Et le symbole est resté, et les personnes sont restées. Et quand j'y suis entré, ce qui pour moi relevait d'une curiosité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien de ce à quoi je m'attendais. Mais on ne revient pas en arrière après avoir prêté serment. On ne peut pas revenir en arrière.
Tommaso Buscetta présente un profil atypique parmi les mafieux. Marié à 16 ans, il émigre dès 20 ans en Amérique du Sud avec femme et enfant. Dès lors, et pour les deux décennies à venir, il va multiplier les allers-retours entre la Sicile, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Canada, les États-Unis, entre autres. Il le dira plus tard, il ne sait même plus très bien dans quel pays il est passé. Et peut-être même sous quelle identité. Car il voyage avec toute une collection de faux passeports. En tout, Buscetta utilisera 200 noms d'emprunt au cours de sa vie. Dans les années 50 et au début des années 60, il est une sorte d'ambassadeur de la mafia sicilienne à l'étranger. Il s'échine à relier l'Italie au réseau de drogue d'Amérique du Nord et du Sud. En 63, il s'installe aux États-Unis et commence à blanchir l'argent sale de la drogue dans des activités légales, autrement dit de façade, notamment en achetant une chaîne de pizzeria. Mais il tue aussi. Le meurtre est un passage obligé. Intarissable séducteur, sa vie sentimentale est tout aussi agitée. Avec sa nouvelle petite amie américaine, il a une fille, ce qui ne l'empêche pas de demander à son épouse sicilienne de le rejoindre avec leurs quatre enfants. À cette époque, Buscetta a donc deux familles qui ignorent tout l'une de l'autre. En 1970, il est arrêté aux États-Unis, libéré sous caution et fuit au Brésil, laissant derrière lui femme et maîtresse. De là, il continue d'organiser un important trafic d'héroïne et de cocaïne. Un jour, sur la plage de Rio, il aborde une jeune femme de la moitié de son âge, Cristina, à qui il raconte qu'il est au Brésil pour lancer une affaire de conserve de tomates. C'est le coup de foudre. En 72, il se fiance à cette jeune femme qui se trouve être la fille d'un célèbre avocat de Rio. Le problème, c'est que Cosa Nostra voit ses frasques sentimentales ou sexuelles d'un très mauvais œil. Un homme d'honneur se doit de donner l'image d'un mari fidèle et respectable. Oui, parce que, précisons-le ici, la plupart de tous ces assassins sont catholiques et pieux. Tu ne tueras point. En tout cas, la réputation de Buscetta freine son ascension. À aucun moment il n'entre dans les instances dirigeantes de la mafia. Mais sa personnalité, son sens stratégique, le rendent incontournable. Salvatore Cusimano, journaliste italien, ancien directeur de la RAI en Sicile, l'évoque dans le documentaire « Il était une fois le traître » en 2019.
Tommaso Buscetta était plus important dans Cosa Nostra que son rôle ne l'indiquait. Ce n'était pas un chef. C'était un soldat. Avec sa tête d'Indien, son regard vif et intelligent, il était certainement la personne qui avait le plus de charisme dans la mafia. Il n'avait pas d'équivalent.
En 1972, Buscetta est arrêté au Brésil, condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs et donc extradé vers l'Italie. Il passe 7 ans derrière les barreaux entre Palerme et Turin. Puis, lorsqu'il obtient un régime de semi-liberté, il file de nouveau au Brésil pour retrouver Cristina, qu'il a épousée en prison. Désormais en cavale, il cherche autant à fuir la justice italienne que la guerre qui vient d'éclater au sein de la mafia sicilienne. Historiquement, Cosa Nostra, notre chose, est dirigée par les familles palermitaines. Mais depuis le début des années 70, une famille, disons, provinciale, celle de la bourgade de Corleone, pèse de plus en plus dans l'organisation. Les Corleonesi, obsédés par le pouvoir, finissent par entrer dans la coupole, sorte de conseil d'administration de Cosa Nostra. Mais ce n'est pas assez pour son nouveau chef, qui se met en tête de rejoindre le sommet de Cosa Nostra et de mettre la main sur le trafic d'héroïne. Cet ambitieux, c'est Salvatore Riina, dit Totorina, ou le petit. Il ne va pas tarder à être surnommé la Belva, le fauve. Son ascension se déroule dans une violence extrême. Il lance une offensive sanglante contre les vieilles familles palermitaines en faisant assassiner, entre autres, deux chefs historiques, Buntade et Inzerillo, auxquels Tommaso Buscetta est lié. Alors, des survivants des familles décimées par les Corleone cherchent à convaincre Buscetta de rentrer en Sicile, dans l'espoir qu'un homme de son envergure puisse mener une contre-attaque. Mais hors de question pour lui de prendre part à cette guerre sale. Prévenu, Totorina n'a plus qu'une idée en tête, liquider Buscetta. Ne pouvant l'atteindre au Brésil, il ordonne l'extermination de sa famille restée à Palerme. Deux de ses fils sont tués. 2 mois après, c'est le tour de son gendre.
Le sommet de la barbarie a été atteint hier soir à San Stefano avec le massacre de New York Place. Une pizzeria où deux tueurs ont commandé quatre pizzas. Après avoir demandé à voir le propriétaire et les pizzaioli, ils ont ouvert le feu, les tuant tous les trois. Les assassins ont en revanche épargné la femme qui était assise à la caisse. La jeune femme, Fenicia Buscetta, est l'épouse d'un des défunts, mais c'est surtout la fille de Don Massino. On ne peut pas exclure que Massino Buscetta, lié au clan des perdants, soit revenu à Palerme pour venger ses fils, mystérieusement disparus.
En tout, 16 de ses proches sont éliminés. Buscetta entre alors dans un état de fureur indescriptible. Mais il n'a pas les moyens de se venger de Rina, complètement en roue libre. Pendant ce temps, c'est le bain de sang à Palerme. Quasi quotidiennement, des corps sont retrouvés mitraillés dans des cages d'escalier ou ligotés à des sièges de voiture. Quand on les retrouve. Parce que les sicaires de Rina sont adeptes de ce qu'on appelle la lupara bianca, des meurtres sans cadavres, où les corps sont dissous dans l'acide, coulés dans le béton ou jetés aux cochons. Les fils de Buscetta ne seront d'ailleurs jamais retrouvés. En quelques mois, la guerre féroce des Corleonesses y fait plus de 1000 morts. D'autres mafieux, mais aussi des innocents et des représentants des institutions. C'est sans doute là l'innovation, si l'on peut dire, la plus terrible des Corleonnais. Alors que la mafia cherchait à prospérer sans attirer l'attention, pas trop, Rina choisit la confrontation militaire avec l'État. Palerme devient alors un cimetière pour les magistrats, les politiques qui cherchent à lui barrer la route ou les journalistes trop curieux. En 1982, Rina est devenue le capo dei capi, parrain des parrains. Mais c'était sans compter sur le courage d'un magistrat incorruptible, Rocco Chinnici, tout juste nommé à la tête du bureau d'instruction de Palerme. Avant son arrivée, les enquêtes contre Cosa Nostra sont fragmentées. Chaque juge d'instruction travaille seul sur son dossier, ce qui le rend très vulnérable. Chinnici, lui, imagine un système collégial où plusieurs juges coordonnent les enquêtes liées à la mafia. Il s'entoure d'un groupe de jeunes magistrats, dont Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, le célèbre poule anti-mafia de Palerme né. Écoutons ce reportage de TF1 en 1982 qui donne à voir la chape de plomb qui pèse à l'époque sur la capitale de la Sicile.
Ici, les magistrats arrivent sous escorte armée. L'un d'eux m'a déclaré hors caméra, oui, entre mafia et justice, la lutte est disproportionnée. Oui, une meilleure collaboration du pouvoir politique serait souhaitable. Oui, le pourcentage d'inculpation des tueurs n'est pas confortable pour la justice. Le voici, c'est le juge Falcone, chargé à Palerme des plus gros dossiers de drogue, 130 inculpations.
Juge Falcone, bonjour. Vous êtes protégé, vous êtes menacé par la mafia ? Pas de réponse ?
Falcone répond par un sourire en coin. Ses collègues et lui vivent évidemment sous une menace constante. L'année suivante, en 1983, Rocco Chinnici est tué dans le premier attentat à la voiture piégée, commandité par la mafia. Quelques semaines après, à 9000 km de là, la police brésilienne défonce la porte de la luxueuse villa de Tommaso Buscetta sur les hauteurs de Sao Paulo, mandat d'arrêt international en main. La justice italienne a enfin eu gain de cause. En passant sa porte dégondée, menottes au poignet, Buscetta est presque soulagé. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être les tueurs de Totorina. En juillet 84, les juges Falcone et Geraci, le substitut du procureur, s'envolent pour Brasilia pour l'interroger. Au parloir, les deux juges voient arriver un homme au physique un peu grotesque. La coloration sombre de ses cheveux aurait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Sa grosse moustache 70s lui donne un look démodé. Et il a visiblement fait de la chirurgie esthétique. Et puis là, cette façon de parler, cet accent sicilien matiné d'intonation brésilienne. Les marques sur ses membres, sa démarche, laissent deviner que la police l'a torturé. « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur le juge ? Je ne suis pas une balance », lance-t-il d'abord à Falcone. « L'État est toujours aux côtés des gens qui décident de collaborer », intervient Geraci, debout, adossé au mur. Sourire de Buscetta. Pourtant, Falcone décèle quelque chose dans son regard hautain. Et pendant quelques instants, les deux hommes s'observent, chacun évitant de recracher sa fumée de cigarette au visage de l'autre. Falcone revient plein d'espoir en Sicile. Son confrère de l'époque, Giuseppe Ayala, se souvient dans le documentaire « Our Godfather, la vraie histoire de Tommaso Buscetta » sorti en 2019.
En revenant, Falcone me dit « Il s'est passé quelque chose d'étrange ». J'ai posé la question habituelle à Buscetta, celle que nous posons toujours. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez à dire sur la mafia ?» Et tu sais ce qu'il m'a répondu, Buscetta ? Il m'a dit « Dottore Falcone, la nuit ne suffirait pas. Je vous demande pardon, mais je suis très fatigué. » Et Falcone me dit « Je pense que c'était un signe. À mon avis, il veut collaborer. » Je lui ai répondu « Falcone, c'est le décalage horaire. Va te reposer. Et demain matin, tu seras lucide. »
Et demain matin, riacquisti lucidità.
Ah, il n'y croit pas, Ayala. L'omerta au sein de Cosa Nostra est un mur qui ne s'est jamais fissuré. Il est inconcevable qu'un de ses membres décide de parler à la justice. Mais Buscetta comprend que pour assouvir sa vengeance contre Totorina, les confidences livrées au juge Falcone seront plus dévastatrices qu'une Kalachnikov. Peu de temps après, il est extradé à Rome. Et la scène a un air de déjà-vu. Il descend la passerelle de l'avion devant les journalistes, exactement comme 12 ans auparavant. Caché derrière des lunettes noires, une couverture rayée sur les avant-bras pour couvrir ses poignets menottés, il est chancelant sur ses jambes. Et pour cause, quelques jours auparavant, il a tenté de s'empoisonner. Le 17 juillet 84, il rencontre les juges au siège de la police criminelle à Rome. Et il met tout de suite les choses au point, comme en témoigne le procès-verbal de son premier interrogatoire écrit à la main par Giovanni Falcone.
J'ai été un mafieux et j'ai commis des erreurs pour lesquelles je suis prêt à payer intégralement ma dette envers la justice, sans prétendre à aucune remise ni aucun rabais, d'aucune sorte. Au contraire, dans l'intérêt de la société, de mes enfants et des jeunes, j'ai l'intention de révéler tout ce que je sais sur ce cancer qu'est la mafia, afin que les nouvelles générations puissent vivre de manière plus digne et plus humaine.
Buscetta regarde Falcone et lui dit « Dottore ». Oui, c'est comme ça qu'on appelle les notables en Italie, quel que soit leur métier. « Dottore Falcone, il y a quand même une chose que nous devons décider. Qui doit mourir en premier ? Vous ou moi ?» Sombre parole, parole prémonitoire.
Niente me ne paretette a sotto già de mamma e per studare tinta stu cora sciamma dovremmo ammora me ne vetta i me ne vedette cazzo ma sperduta senza la voce che comporre tu cuore senza l'amore mamma che non muore e che sempre felice te può fare senza mamma a quante volte sta parola ancora senza amore che me ne faccio questa gioventù e mentre go pensiera me struieva dopo tre anni e bene pocondria la lettera arrivaia da sora mia la mamma me era morta tempo fa mo che ne resta che sta vita mia tutto che io speravo mo è per nulla l'amore più sincero ha già perduto. O bene mamma, no, non può mai tornare. Senza mamma, non si può chiudere a chi studia l'ora.
senza amore, meglio che muore che c'è gamba fa.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Buscetta, le repenti de Cosa Nostra.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le juge et l'assassin. Falcone plaît à Buscetta. Son côté réservé, son sérieux, son honnêteté. Il est pour lui l'image de la force tranquille de la justice. Falcone, lui, sait que Buscetta détient une clé unique pour percer le mystère de Cosa Nostra. Oh, il ne l'idéalise pas, garde une vraie distance, mais il le respecte. Entre le juge et le mafieux, s'instaure une relation de confiance, bien que fragile et soumise à conditions. Falcone évoque, quelques années après.
Est-il parfois possible d'établir un contact humain avec un mafieux ?
Bien sûr, ce sont des hommes comme les autres.
Je veux dire Buscetta, par exemple.
Mais ce sont aussi des personnes sympathiques, antipathiques, avec une âme noble, avec une âme moins noble, comme tout le monde.
Il y a toute une humanité.
Il y a toute une humanité, bien sûr.
Buscetta parle d'un ton calme et solennel. Falcone écrit de son écriture ronde et nette. Il recoupe les informations pour vérifier la cohérence des propos du mafieux. Buscetta reprend les bases. L'organisation ne s'appelle pas mafia. Ça, c'est bon pour les journalistes. Non. Ceux qui sont affiliés l'appellent Cosa Nostra. Le collaborateur donne alors des noms, décrit les crimes commis sans jamais s'en accuser d'aucun, donne quantité d'indications utiles au développement des enquêtes, mais surtout, il lève le voile sur ce qu'est vraiment Cosa Nostra. Il révèle sa structure, jusque-là complètement opaque pour l'État. Une structure hiérarchisée, pyramidale, composée de différentes familles mafieuses, avec à son sommet la commission ou la coupole, qui prend toutes les décisions. Jamais Buscetta n'acceptera l'étiquette de repenti. Non, ni face à Falcone, ni jamais. Il reste profondément un mafieux. Mais il estime que les valeurs de sa mafia ont été dévoyées par Riina, sa barbarie, sa cupidité. Le principal, c'est que ces révélations permettent un gigantesque coup de filet. Le juge Ayala raconte dans Corleone, le parrain des parrains, en 2019.
Ce qu'on peut appeler l'opération Buscetta, le procès-verbal de ses déclarations, les vérifications, les recoupements, l'émission de 375 mandats d'arrêt a pris plus de 2 mois. Personne n'a su que Buscetta collaborait.
Non so quante altre volte in Italia è successa una cosa del genere. Parlo del mondo giudiziario italiano.
C'est un fait rarissime. Je parle du monde judiciaire italien, pour être clair. Plus la police. Mais nous étions les seuls à le savoir. Et ce n'était pas une information négligeable. Rien n'a filtré, pas même un soupçon. La preuve, les mandats d'arrêt ont été suivis des faits. Personne ne s'y attendait. Rien n'a filtré.
Le travail acharné du poulet anti-mafia aboutit à l'instruction d'un procès historique contre Cosa Nostra, le maxi procès de Palerme. Oui, maxi, car tout y est démesuré. Les actes comprennent 1 million de pages. L'ordonnance de renvoi, qui synthétise les éléments du procès, 8000 pages. Mais une question inédite se pose. Où vont se tenir les audiences ? Où mettre les centaines d'accusés et autant d'avocats et la foule des journalistes ? Le palais de justice de Palerme est beaucoup trop petit. Sans compter les problèmes de sécurité, imaginez, transférer quotidiennement entre la prison et le tribunal ce nombre de justiciables, parmi lesquels les chefs mafieux les plus dangereux de l'île, est inimaginable. Alors une décision est prise. Construire en un temps record une énorme salle d'audience directement attenante à Luciardone, la prison de Palerme. Les murs sont à l'épreuve du bazooka et un nom de guerre est donné à ce nouvel édifice, Tribunal Bunker. Ce maxi-procès s'ouvre le 10 février 1986. Tout ce que Cosa Nostra compte de gradé est retenu dans de gigantesques cages. 119 inculpés sont jugés par contumace, dont Totò Riina, qui est en cavale. La plupart se livrent à des comportements perturbateurs ou menaçants. Certains feignent la folie en hurlant ou en enlevant leurs vêtements. Un autre s'agrafe la bouche pour signifier son refus de parler. un autre encore menace de se trancher la gorge si l'une de ses déclarations n'est pas lue à la cour. La présence de Tommaso Buscetta, elle, est incertaine. Depuis l'année précédente, il a signé un contrat de collaborateur de justice avec le gouvernement américain dans le cadre d'un procès de la mafia italo-américaine, dit procès Pizza Connection. Et il a intégré un programme de protection des témoins. Bien. Mais le 3 avril, son avocat prend la parole.
Monsieur le Président, je voulais vous signaler que l'accusé Tommaso Buscetta, qui avait renoncé à comparaître, est à la disposition de la cour.
Une porte s'ouvre au fond de la salle d'audience. Costume cravate, lunettes noires, Buscetta s'avance lentement vers le micro, encadré par 6 carabiniers. Silence dans le prétoire. Car même dans sa position de traître, son charisme continue d'inspirer un certain respect à Cosa Nostra. Alors il s'assoit, retire lentement ses lunettes et les glisse dans la pochette de sa veste. Le grand public découvre alors Tommaso Buscetta. Jusque-là, à peine quelques photos avaient filtré. Eh bien, ce seront les seules images de son visage durant le procès, car ensuite, il sera filmé de dos. Son audition dure une semaine. Il confirme tout ce qu'il a dit à Falcone. Pippo Ciallo, l'un de ses anciens amis proches à Palerme, cherche à miner sa crédibilité en le défiant frontalement. S'il y a un traître, c'est bien lui. Ciallo s'est rangé du côté des Corleonesi et a étranglé des fils de Buscetta, qu'il avait pourtant connu petit. Mais la précision, la supériorité du témoignage de Buscetta est telle que les avocats qui avaient requis des confrontations avec lui y renoncent tous, un à un. Après presque 2 ans de procès, le verdict est rendu. Un total de 2665 années de prison est prononcé, sans compter les peines à perpétuité à l'encontre de 19 chefs mafieux. Des condamnations inimaginables jusque-là. Non, l'État italien n'est pas faible. Oui, l'État italien a gagné sa guerre contre la mafia sicilienne, qui l'eût cru. Tant et si bien que la fin des années 80 est une période de relative pax mafiosa. Cosa Nostra ne tue plus. Parce qu'un de ses hommes de confiance, le député et ancien maire de Palerme, Salvo Lima, lui a donné des garanties. Les peines extraordinaires du maxi-procès seront annulées en cassation ou fortement atténuées. Il y a à la cour de cassation à Rome un juge corrompu, toujours en charge des procès de la mafia et connu pour acquitter à tour de bras. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Giovanni Falcone, à peine nommé directeur général des affaires pénales à Rome. Grâce à une réforme qui prévoit une rotation des magistrats, il parvient à court-circuiter le juge véreux. En 1992, les sentences du maxi-procès sont définitivement confirmées. Fureur de Dottorina, qui lance une série d'assassinats et d'attentats vengeurs. En mai de la même année, Giovanni Falcone est assassiné dans un attentat spectaculaire.
Un cratère de plus de 40 mètres de diamètre, un amas de cailloux en lieu et place de l'autoroute, des voitures pulvérisées. La mafia n'aura pas employé de demi-mesure pour en finir avec son ennemi numéro 1. Giovanni Falcone, le juge le plus célèbre d'Italie, arrivait de l'aéroport de Palerme et se dirigeait vers la ville portuaire de Trapani. Une canalisation piégée, bourrée de plus d'une tonne de dynamite, l'attendait à son passage, dissimulée sous une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute.
Tommaso Buscetta reçoit la nouvelle comme un coup de poing dans l'estomac. Mais il s'y attendait. Combien de fois l'a-t-il répété à Falcone ? Il faut se méfier des habitudes des uns et des autres, autrement dit des cibles. Parce que pour frapper, la mafia a besoin de régularité. Alors revenir de Rome en Sicile à intervalles fixes, c'est signer son arrêt de mort. 2 mois après, le juge Borsellino subit le même sort. La mort de Falcone, qu'il admirait tant, provoque un déclic chez Buscetta. Il ressent le besoin d'en découvrir de nouveau avec Cosa Nostra et de redescendre dans l'arène judiciaire. En septembre 92, il rencontre à Washington 2 juges de Palerme, dans le cadre de la mort de Salvo Lima, 2 députés assassinés à Palerme. Ce jour-là, il fait une annonce capitale, espérée par certains, crainte par d'autres. Il entend désormais parler des rapports entre Cosa Nostra et le monde politique, pour honorer la mémoire de Falcone. Ce qui équivaut à faire tomber un tabou, car la question n'a jamais été abordée frontalement en Italie. Jusque-là, Buscetta est toujours resté très évasif sur ce sujet délicat, que ce soit en salle d'audience ou dans ses dépositions. Mais de retour en Italie, il commence à lâcher les noms des politiciens alliés de Cosa Nostra, qu'il a personnellement connus. Mais l'époque a changé depuis sa collaboration auprès de Falcone, 8 ans auparavant. De plus en plus de repentis prennent la parole contre la mafia. Depuis mars 1991, la loi italienne prévoit des réductions de peine, des programmes de protection et de soutien économique pour les membres d'organisations criminelles qui acceptent de coopérer avec la justice. Alors que les confessions se tenaient auparavant dans un parfait huis clos, les indiscrétions plus ou moins vraies filtrent désormais dans les journaux avant même la fin des enquêtes. En janvier 1993, Totorina est arrêté après 23 ans de cavale. La même année, Buscetta est amené à comparaître dans un procès qui juge la responsabilité du monstre dans une série d'assassinats politiques. Rina refuse de s'adresser à Buscetta devant la cour, sous prétexte qu'il serait un homme à femme. Immoral, comprenez-vous, les hommes d'honneur. 11 ans après la mort de ses fils, Buscetta n'a rien perdu de sa rage.
Buscetta, vous pouvez vous adresser directement à Rina?
Monsieur le Président, je voulais... Je peux? Je refuse la confrontation. Je ne veux plus être confronté à ce monsieur. Nous avons la morale chez nous.
S'il ne veut pas me parler, je me dois de vous dire qui est cet homme. Parce qu'il me parle de morale, à moi, avec les femmes. Je voudrais vous demander, à vous, et à lui, avec quel culot il me parle de morale quand il est responsable de la fin de mes proches. Cet individu peut parler de morale? Il a tué des quantités d'innocents et il vient me parler de morale? Elle est où ta morale, Rina? Montre-la nous. Elle est où ta morale?
Parmi les noms des politiques révélés par Buscetta, il y a celui d'un intouchable, Giulio Andreotti, ancien président du Conseil, qui l'accuse d'avoir des liens avec la mafia. Et il explique que Salvo Lima, le député, jouait les courroies de transmission entre le milieu sicilien et le pouvoir central. Le parquet de Palerme juge ces éléments assez graves pour adresser au Sénat italien une demande de lever de l'immunité parlementaire d'Andreotti, condition sine qua non pour enquêter. Et il l'obtient. L'événement a un retentissement considérable dans l'opinion publique. Pour la première fois, la question tant controversée des liens entre le pouvoir mafieux et le pouvoir politique en Italie accède à la scène judiciaire. Et pas par le biais d'un second couteau, non, par celui de la plus grande figure de la politique italienne des 50 dernières années, Andreotti. En 96, Buscetta est l'un des principaux témoins du procès intenté à Andreotti pour ses liens présumés avec Cosa Nostra. Tout un symbole, les audiences ont lieu dans le bunker, construit 9 ans auparavant pour abriter le maxi-procès et juger les pires parrains de Cosa Nostra. Tommaso Buscetta explique en salle d'audience pourquoi il n'a pas parlé avant.
Si
j'avais parlé de la mafia et de la politique, j'aurais dû mentionner des personnes qui ont dominé la politique italienne. Et si aujourd'hui, en 1996, ces choses semblent incroyables, je vous laisse imaginer si je les avais dites en 1984.
Ces personnages que vous auriez dû citer en 1984, qui étaient-ils? Qui était au sommet de l'État?
Je peux vous donner 2 noms. L'un était l'actuel sénateur à vie, Giulio Andreotti, et l'autre, Salvo Lima.
Alors, expliquez-moi dans votre esprit, si en 1984, vous aviez dit ce que vous saviez sur cette personne, qu'est-ce qui aurait pu se passer?
On m'aurait pris pour un fou, et le juge Falcone aurait été transféré.
En mai 2003, Andreotti est blanchi de l'accusation de complicité avec la mafia. Mais les juges reconnaissent de sa part l'existence, je cite, « d'une authentique, stable et amicale disponibilité envers les mafieux jusqu'au printemps de l'année 80 ». Avant cette date, la prescription s'applique et, pour les faits postérieurs, il est acquitté pour manque de preuves. Buscetta, lui, passe les dernières années de sa vie aux États-Unis avec sa famille, à Miami, sous la protection du FBI, après un énième déménagement pour échapper à la vendetta. Ce ne sont pourtant pas ses ennemis qui auront sa peau, mais un vulgaire cancer du poumon. Il meurt le 2 avril 2000. Son corps est enterré en Floride sous une fausse identité. Giovanni Falcone, lui, est inhumé au cimetière de Sant'Orsola, à Palerme, avant d'être transféré le 3 juin 2015 dans l'église San Domenico, qui abrite un panthéon des célébrités siciliennes. Alors, accordons-lui cette mention en guise d'épitaphe, l'étoffe des héros.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Tomato Buscetta, le repenti de Cosa Nostra, dont nous parlons avec notre invité Nicolas Besson. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas Besson, vous êtes procureur de la République à Marseille. Vous êtes donc vous-même magistrat. On va parler de vos collègues italiens, bien sûr. On va parler de cette stratégie du repentir. Évidemment, on va voir si c'est la même chose en France. Peut-être. Mais d'abord, que vous inspire ce personnage, Tomaso Buscetta ?
C'est un personnage fondamental dans la lutte contre la criminalité organisée en Italie d'abord, mais également au niveau international. Et d'ailleurs, sachez que c'est devenu un peu comme le préfet Poubelle, un nom commun. Dans beaucoup d'écoutes au début des années 2000-2005, dans les relations franco-italiennes, dans les discussions, on disait « il ne faut pas que tu traites avec lui parce que lui c'est un bouchette ». Donc ça veut dire c'est un traître, c'est quelqu'un qui a brisé le mur du silence. Donc c'est fondamental. Et sa figure, évidemment accompagnée par le pool anti-mafia et tous les magistrats de Palerme dont vous avez parlé dans la suite des reportages, c'est la première fois qu'il y a eu une riposte coordonnée et efficace de l'État italien contre la mafia, avec les dérives évidemment qui se sont produites, c'est-à-dire une attaque frontale contre les autorités publiques, mais finalement l'État italien a gagné cette bataille. Et alors qui chancelait sur ses propres fondements dans cette lutte contre la mafia.
Est-ce que vous diriez que Buscetta, ce sera ma dernière question sur lui, n'est ni un héros ni un lâche finalement ? C'est quoi un repenti ?
Oui, il faut pas fantasmer. Hein, de ce que je comprends, et là je parle un peu italien, Falcone était un individu très calme. Il faut pas avoir de l'admiration pour ces gens-là, parce qu'il peut y avoir une certaine fascination à la fois des services enquêteurs et des magistrats.
Vous parlez des mafieux.
Oui, des mafieux, pour ces figures mafieuses. Et en fait, il faut les traiter, il a dit très justement, hein, ce sont des hommes comme les autres. Mais ce sont des criminels, et puis il faut adopter une posture professionnelle dans l'intérêt évidemment des institutions, mais également dans les intérêts du collaborateur. Et le collaborateur, ce qui est important, le repenti, j'aime pas trop le terme de repenti, je vous expliquerai plus tard pourquoi, parce qu'il n'y a rien de moral là-dedans. Il y a comment l'État peut lutter efficacement contre la criminalité organisée. Et d'ailleurs, nous en droit français, je vous en parlerai également un petit peu plus tard, nous avons adopté cette conception morale qui a fait que la figure du repenti, du collaborateur, n'a pas très bien fonctionné, alors que la loi française existe depuis 2004, inspirée du droit italien. Et là, la dernière loi en date a gommé tout l'aspect repenti, hein, qui est un aspect un peu christique, hein, pour aller vers l'efficacité de l'État.
En fait, il ne s'agit pas de l'admirer, effectivement, il s'agit de considérer le repenti comme un instrument.
C'est un instrument, comme une écoute téléphonique, sauf que vous travaillez sur de la matière humaine. Hein,
et
le magistrat ne doit jamais l'oublier non plus, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous.
Donc Falcone aura inventé quelque chose dans la stratégie de lutte contre la mafia, le repentir. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé, à votre avis, cette méthode avant ? Parce que c'est vrai que c'est facile à dire, mais une fois qu'elle est mise en place, on la trouve évidente.
Oui, alors on l'a pas mis en place précédemment, c'est devant la violence des événements, hein, qu'il a fallu essayer de trouver des solutions. Je répète, c'est cette vision morale. Il est très difficile de faire admettre à votre population qu'un criminel, trafiquant de drogue, assassin, racketteur, bénéficie d'une application de peine réduite s'il parle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut accompagner naturellement la collaboration d'un statut de protection, de réinsertion, de financement. Et on va lui trouver un emploi public, par exemple, dans le nord de l'Italie. Et là aussi, pour la population qui travaille honnêtement, c'est compliqué de dire vos impôts servent à financer un criminel. Donc, c'est ça qui bloque un petit peu au départ. Et puis après, quand on montre l'efficacité du système et que vous enlevez justement tout cet aspect moral, la population, il peut y avoir un consensus naturellement pour utiliser cet instrument qui est bigrement efficace dans la lutte contre la criminalité organisée. Donc je pense que c'est ça qui a bloqué. Et puis après, on s'est rendu compte, il n'y a pas que l'Italie, il y a également les États-Unis qui très rapidement se sont lancés dans des programmes de protection et de collaboration. Ils ont marqué des coups décisifs dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pour ça qu'après, ça a fait son chemin un peu dans l'opinion publique.
France Inter. Affaires sensibles.
Nicolas Besson, je rappelle que vous êtes procureur de la République à Marseille. Nous parlons donc des repentis, de cette stratégie de la justice auprès des repentis. En 91, en Italie, donc, cette loi est votée. On l'appelle loi sur les collaborateurs de justice. Est-ce qu'on a imité l'Italie? Je sais que la réponse est oui. La loi de 2004, c'est ça? Et en quoi consiste-t-elle? Quels sont les termes de cette loi? Les principaux.
Loi de 2004 qui prévoit que les personnes qui collaborent soit pour permettre d'élucider et de poursuivre une organisation criminelle ou au contraire qui empêche la commission d'un crime bénéficient soit d'une exemption de peine, soit une application de peine réduite à minimum de la moitié de la peine. La contrepartie, c'est nécessairement d'assurer la protection du collaborateur puisqu'il met sa vie en danger dès lors qu'il trahit l'organisation et qu'il parle aux autorités policières et judiciaires. Pour que vous compreniez, on a mis 10 ans pour faire adopter le décret d'application qui va permettre la mise en œuvre.
Et pourquoi ça a mis si longtemps?
Les magistrats et l'autorité politique n'étaient pas fondamentalement favorables à cette
c'est
figure.
C'est pas sa culture.
Non, c'est pas sa culture, c'est pas la figure du traître, du collaborateur. On a même eu des décisions totalement hallucinantes et irrationnelles, c'est-à-dire que celui qui parlait, celui qui coopérait, était condamné plus sévèrement que ceux qui gardaient le silence. Donc il a bien fallu, à un moment donné, qu'il y a une sorte de révolution culturelle du côté des magistrats et également de la police, parce que la police n'y était pas non plus nécessairement favorable, parce que ça vous impose de travailler différemment. La police est sur le terrain, elle a le renseignement, par le code de procédure pénale et c'est démocratique, elle doit travailler sous l'autorité et la direction des magistrats, qu'ils soient procureurs ou juges d'instruction. Le collaborateur de justice, c'est la judiciarisation du renseignement, et je trouve que c'est plus démocratique, parce que c'est discuté contradictoirement avec la défense, et c'est pas l'indicateur de police qui va travailler clandestinement, et ça fait que le pouvoir, l'information y passe de la police judiciaire aux magistrats, qui vont fixer des stratégies, qui vont demander à la police judiciaire de ne pas travailler simplement sur l'événement, hein, sur le racket, sur le règlement de compte, mais sur l'organisation, et de travailler de manière inversée, c'est-à-dire de construire leur enquête autour des déclarations du collaborateur, dont ils vont avoir besoin de crédibiliser ces déclarations. Et ça, c'est totalement nouveau, c'est totalement inversé. Et là, je pense qu'on est arrivé à maturité. Donc 2014, 10 ans après le décret, qui va nous permettre de les protéger. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, le premier collaborateur de justice officiel, pour vous dire, je vais vous donner la région d'où il vient, on disait en Corse, c'est l'Omerta, c'est comme la Sicile.
Eh bien, c'est un Corse.
Eh bien, c'est un Corse.
Et alors, vous avez eu affaire à des collaborateurs de justice dans vos enquêtes, dans le cadre de votre travail?
Oui, absolument.
Alors, comment ça se passe? Comment vous ressentez ça?
Alors, c'est celui qui est le plus à même de penser à la collaboration, c'est l'enquêteur qui, dans le cadre d'une mesure de garde à vue, va sentir que la personne, elle peut basculer, elle peut décider de collaborer. Et la deuxième figure, c'est le juge d'instruction.
Qui est le chef enquêteur.
Qui est le chef enquêteur, qui plus encore que le procureur va voir... qui va collaborer. Et puis après, le rôle du procureur de la République, naturellement, dans la conduite des poursuites, il faut que ce soit un accord tripartite. La police, hein, qui est chargée de l'évaluation, le juge d'instruction qui est à l'origine de la décision, et le procureur qui, lui, va poursuivre, va soutenir l'accusation. Il faut que les trois soient d'accord. Et quand est-ce qu'on... Il y a deux cas de figure, en fait, qui vont pousser une personne à collaborer. La première, c'est, je pense que je vais être éliminé par l'organisation, et donc je me tourne vers l'État pour avoir une protection, et en contrepartie, je suis prêt à livrer un certain nombre d'éléments sur la collaboration. Puis après, le deuxième, et c'est le plus intéressant et c'est le plus important, c'est le bilan coût-avantage. C'est pour ça que le terme repenti ne nous plaît pas, à nous, magistrats, parce qu'il y met une conception morale. Hein. C'est pas, on est bien d'accord, c'est pas Saint-Paul sur le chemin de Damas.
Donc vous l'appelez comment par...
okay. Alors, c'est vrai que le collaborateur, ça rappelle aussi les heures plus sombres de notre histoire. On a du mal à trouver le terme le plus adéquat. Hein. Bon, ni repenti, ni collaborateur. Mais bon, dans notre code de procédure pénale, on l'appelle collaborateur. Et donc, il va se livrer à ce bilan coût-avantage. Il faut qu'en face, il ait un intérêt à collaborer. Et là, nous avons une loi, puisque ça aura été en trois temps, 2004, 2014, et puis un peu plus de 10 ans plus tard, 2025, la loi de lutte contre le narcotrafic qui a été adoptée au mois de juin, a fait évoluer ce statut. Et moi, j'attends beaucoup de choses, puisque jusqu'à cette loi de 2025, il était impossible de faire bénéficier du statut de collaborateur aux personnes qui avaient du sang sur les mains, c'est-à-dire les auteurs d'assassinats ou les complices.
C'était le cas de Buscetta. Hein.
Oui. Tout à fait. C'était interdit pour des raisons morales, on disait, il a du sang sur les... Or, en excluant du régime de collaboration le complice d'assassinat, c'est-à-dire le commanditaire, le chef de l'organisation, vous vous privez de faire de collaborateur le haut du spectre. Mmh. Or, quel est l'intérêt pour l'État ? Et moi, c'est mes collègues italiens, une fois, on était allé avec un juge d'instruction entendre à Naples un collaborateur de justice qui était le chef du clan camorriste d'Acer. Il allait purger 10 à 12 ans d'emprisonnement alors qu'il avait fait assassiner une trentaine de personnes, et il faisait prendre, si je puis me permettre cette expression un peu triviale, par ses déclarations, la perpétuité à tous ses lieutenants. Et là, je dis à mon collègue italien, je dis Enzo, parce que j'avais encore cet état d'esprit, je dis, ça te choque pas quand même, c'est le chef, c'est le... Mais il me dit, mais quel est l'intérêt pour l'État italien ? Que le plus intelligent et le plus dangereux, il est basculé du côté de l'État, qui nous donne tous les rouages de l'organisation, et il empêche tous ceux qui veulent prendre...
C'est très pragmatique. Hein.
C'est très pragmatique, en fait, il ne faut pas y mettre de morale.
Toute dernière chose, je pense que vous êtes trop jeune pour avoir rencontré Falcone.
Ah oui, je portais des culottes courtes à cette époque-là, mais en revanche, nous avons eu à Marseille, à la création de la GIRS, la suite, puisque Bernardo Provenzano, qui était
le dernier recherché.
Voilà, le dernier recherché, et le successeur de Totorina, est venu se faire opérer de manière clandestine dans une clinique de La Ciotat. Et donc, nous avons coopéré avec les descendants de Falcone, si on peut dire cela, des collègues du parquet antimafia de Palerme.
Merci infiniment, Nicolas Besson. Merci pour tous ces éclairages et ces précisions. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Tommaso Buscetta, le repenti de Cosa Nostra. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique, il y avait aujourd'hui Ronan Mahé.